Deux heures après son arrivée à Paris, Paul se promenait au hasard dans les rues de cette ville dont on parlait à Moutier comme d'une fabuleuse région. De la rue Dauphine, où il était venu loger selon les indications de Finlappi, il s'était dirigé tout naturellement vers le pont Neuf. Et quel fut son étonnement lorsqu'à l'angle de ce pont, il aperçut au milieu d'un chaos de gens, de chevaux et de voitures, le joaillier lui-même. Le joaillier qu'il croyait encore à Besançon. « Et quoi ? » s'écria-t-il, en s'élançant avec bonheur à sa rencontre. « Mon cher monsieur, est-ce vous ?»«
Oui, mon jeune ami, » répondit le joaillier d'un ton jovial. « C'est moi-même en personne, comme vous voyez. Même habit, même chapeau et même figure. Je me suis procuré les moyens de transport plus rapides que les vôtres. Il y a 2 jours que je suis ici, et j'ai déjà fait bien de la besogne. » D'abord, j'ai vu le personnage dont je vous parlais et qui achètera, je crois, l'escarboucle. En second lieu, je vous ai trouvé une demeure convenable, car vous ne pouviez rester à l'hôtel qu'en passant. Vous aurez près du Palais Royal, dans le quartier élégant du monde, votre maison à vous, vos gens, votre carrosse, et vous pourrez dès aujourd'hui, s'il vous plaît, commencer cette vie de gentilhomme. « Je vous prierai seulement de bien vouloir me confier l'escarboucle, pour que je la fasse voir à la personne qui désire l'acheter. Je vais vous remettre quelques milliers d'écus pour vos premières fantaisies. Usez de votre argent largement, et quand vous en aurez plus, voici mon adresse. Écrivez-moi ou venez me trouver. Ma caisse vous est ouverte. » Paul avait passé par tant d'émotions dans l'espace de 8 jours que ces paroles du joaillier ne pouvaient même plus le surprendre. Il accepta sans réflexion aucune la proposition qui lui était faite, reçut sans trop y regarder l'argent qui lui fut remis et s'installa sans façon dans la riante et coquette demeure que Finlappi lui avait préparée. Il n'est dans ce monde à laquelle on s'habitue si aisément qu'à la fortune. Dès qu'on en jouit, il semble qu'on y ait été préparé dès son enfance, tant on s'y trouve promptement bien et à son aise. Tant on se sent en un clin d'œil, on ne sait par quelle intuition, façonné aux allures et au langage de l'homme riche. Tout en entrant dans les appartements dorés et sculptés, où il allait régner en maître, Paul, l'innocent enfant de village, se trouva subitement transformé. Il prit le temps haut et sec, le geste superbe et impérieux. Il hésitait d'abord à demander certains services à ses gens. Bientôt, il les traita sans ménagement et sans pitié. Il criait, il s'irritait à tout instant contre l'insolence de l'un, contre la maladresse de l'autre, contre le peu d'invention de son cuisinier ou la lenteur de son cocher. Bientôt aussi, il eut un ami. Que dis-je ? Un ami ? Plusieurs amis. Tous jeunes gens de la première distinction, portant l'habit à paillettes, le chapeau à plumes, l'épée au côté et tenant à honneur de cultiver l'affection de Paul et de lui être agréable. D'abord, on l'avait appelé dans la maison qu'il habitait et dans les cercles qu'il formait autour de lui, Monsieur le Chevalier. On lui donna ensuite tout aussi libéralement le titre de baron. Mais celui de ses amis qui lui montrait le plus de dévouement déclara qu'il ne pouvait se résigner à voir son meilleur ami décoré d'une qualification si modeste, qu'il savait de sources certaines, par des recherches faites chez Dozier lui-même, que Paul était marquis, qu'il fallait que désormais chacun ne lui donnât que le titre de marquis, et Paul s'intitula le marquis Dubois. Si ses amis lui offraient chaque jour d'éclatants témoignages de l'empressement qu'il éprouvait à le rencontrer, et du désir de le voir figurer honorablement dans le monde, lui, de son côté, les traitait avec une superbe générosité. Bal et spectacle, promenade et souper, le bon Paul payait toutes les parties de plaisir où ses amis le conduisaient, sans compter que maintes fois, soit à une table de jeu, soit dans quelque splendide magasin, ses excellents amis se trouvaient dans l'embarras. Celui-ci avait oublié sa bourse, cet autre avait perdu au lansquenet tout son revenu d'une année. Et Paul était là, qui perdait lui-même, mais qui se croyait assez riche pour satisfaire à tous les vœux de ses compagnons
et réparer tous les désastres. Un respectable vieillard, qui demeurait près de lui et qui le rencontrait de temps à autre, lui dit bien un jour « Prenez garde, monsieur, on vous trompe, on vous pille et l'on rit de vous. Je n'ai pas l'honneur d'être connu de vous et vous trouverez peut-être étrange que je me permette de vous donner cet avis, mais j'obéis à une charitable pensée et je désire qu'elle vous soit utile. » « Fi donc !» s'écria Paul. « Comment osez-vous soupçonner l'honneur et la délicatesse d'une demi-douzaine de parfaits gentilshommes ?» Et il se précipita, avec une nouvelle ardeur, dans le tourbillon des fêtes où ses joyeux amis s'applaudissaient de l'entraîner. Il va sans dire que dans un tel train de vie, l'argent que lui avait remis le joaillier devait fort lestement s'échapper de ses mains. 3 semaines n'étaient pas écoulées qu'il fut forcé de revenir à la caisse de Falimpi. « Bravo, mon jeune homme !» dit le joaillier en le voyant entrer. « Je remarque avec plaisir que si la fortune vous a généreusement traité, vous n'êtes point de ces êtres stupides qui se croient obligés de dérober à tous les regards les biens dont ils devraient gaiement jouir. Je n'ai pas encore vendu votre diamant, mais prochainement, j'espère, tout sera fini. » En attendant, voici pour continuer le cours de votre aimable existence les plus belles pièces d'or qui se puissent voir dans le royaume de France et de Navarre. Ne les épargnez pas. En parlant ainsi, le joaillier avait dans le regard, dans la voix, une expression de sarcasme froid, méchant, qui frappa singulièrement Paul. Le jeune aventurier ne fit cependant aucune observation. Il versa légèrement les pièces d'or dans les poches de son habit et s'en alla d'un pas leste rejoindre sa cohorte de gais camarades. La semaine suivante, il revint demander la même somme. Et quelques jours après, encore. Car le monde où il vivait l'entraînait de plus en plus, et chaque nouvelle flatterie de ses prétendus amis était comme une nouvelle lettre de change tirée sur lui, qu'il s'empressait d'acquitter avec une confiance sans égale. On lui prodiguait des éloges, on vantait ses façons exquises, son langage, sa grandeur d'âme, tout, jusqu'à sa cravate brodée, jusqu'à la coupe de ses vêtements, qui devait, disait-on, attirer les regards des plus grands seigneurs et faire une révolution dans la mode. Déjà le roi l'avait remarqué en passant, et avait témoigné le désir de le voir. Les dames du haut parage voulaient le posséder dans leur cercle. On attendait à tout instant un gentilhomme de la chambre qui devait le prier de vouloir bien comparaître au petit lever de Versailles. À ces louanges démesurées, Paul relevait la tête fièrement, se regardait à la glace, prenait des attitudes folles, et livrait à ses flatteurs, d'une main libérale, tout ce qu'il possédait. Mais quand il se présenta la dernière fois chez le joaillier pour lui demander de nouveaux sacs d'écus, il fut de prime abord stupéfait de l'étrange physionomie de Falimpi. « Ah, monsieur le gentilhomme !» lui dit d'un air d'impitoyable moquerie le vieux marchand. « Ah, vous y allez de ce train ! Je vous croyais quelque peu naïf et inexpérimenté, mais pourtant pas à ce point. En 2 mois, vous avez dévoré la fortune d'un comte. » « Il est vrai que vous êtes marquis. Voici vos reçus. » Le joaillier avait eu grand soin de prendre de Paul un reçu de chaque somme qu'il lui donnait. « Moi, pourtant, je n'ai pas encore vendu votre fameuse escarboucle, et jusqu'à ce qu'elle soit placée, je ne puis plus rien vous donner. »« Plus rien ?» s'écria Paul, qui avait ce jour-là même plusieurs engagements à remplir. « Plus rien !» répéta Falimpi, d'un ton de persiflage. « Eh bien, rendez-moi donc le diamant que je vous ai confié. Je ne demande pas mieux, si vous avez la complaisance de me rembourser d'abord les avances que je vous ai faites. »« Misérable !» dit Paul avec un accent de fureur. « Ne nous emportons pas, mon jeune monsieur. Chacun son affaire ici. J'ai votre diamant entre les mains, c'est vrai, mais vous avez aussi mon argent. Rendez-le-moi avec l'intérêt légal, et tout sera fini. Mais vous savez que cela m'est impossible. » « Je sais que vous êtes un jeune homme de la plus belle espérance, et que vous avez les plus nobles amis du monde. Allez leur demander quelques 100 000 francs que vous me devez, et nous serons bientôt d'accord. Ne vous ont-ils pas juré 100 fois qu'ils vous étaient dévoués à la vie et à la mort? Qu'est-ce qu'une si misérable somme pour des amis qui vous aiment tant? À ces derniers mots, prononcés avec la plus insultante expression d'ironie, Paul ne put se contenir. Il s'élança sur le joaillier, le prit à la cravate et le jeta sur le parquet. « Au secours! Au secours !» s'écria d'une voix étouffée Fanapi. En ce moment, une escouade de guets passait dans la rue. À ces cris de douleur et de désespoir, les archers se précipitèrent dans la maison, trouvèrent le vieux joaillier qui gémissait, tremblait, se débattait sous la main vigoureuse de son jeune antagoniste. Et, sans vouloir écouter aucune explication, ils les emmenèrent tous deux en prison. Dès que Paul, accablé, terrassé par une telle catastrophe, eut recouvré l'usage de sa réflexion, il demanda une plume, de l'encre, et écrivit à chacun de ses fidèles amis une lettre dans laquelle il racontait l'indigne outrage qu'il venait d'essuyer, les odieuses machinations dont il avait été victime, et il finissait en réclamant un prompt secours. Cette correspondance finie et expédiée, il s'attendait de minute en minute à voir apparaître dans son cachot tous ces braves jeunes gens qui lui avaient fait si souvent tant de magnifiques protestations. Mais un jour, 2 jours se passèrent et personne ne se présentait. Le matin du 3e jour, il était sur sa couche de paille, attendant encore, prêtant l'oreille au moindre bruit, lorsqu'il entendit la voix du geôlier qui, le croyant endormi, disait à un de ses camarades. « Ce jeune homme qui est là et qui a l'air si innocent, figure-toi que c'est un affreux voleur qui a enlevé un des plus riches diamants d'un des plus beaux magasins de Paris et fit louter plus de 100 000 francs à un brave joaillier. « Vraiment ? » s'écria l'autre. « Est-il possible ? » ?»« Oui, je peux te l'affirmer, car ce joli coquin qui a déjà été en prison pour je ne sais quelle mauvaise action et qui se fait appeler le vicomte de Bazan, l'a dit positivement à notre camarade Auguste, qui lui portait une lettre de ce jeune homme. Ce coquin, ce faux vicomte, était précisément le beau et riant cavalier qui s'était le plus ardemment attaché à la fortune de Paul, et que le pauvre enfant de Franche-Comté regardait comme un ami le plus puissant et le plus dévoué. En apprenant cette effroyable vérité sur l'un de ses compagnons, il pressentit ce que devaient être les autres, et se roula sur sa couche, avec des larmes et des cris de désespoir.